Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert. Selon notre bonne habitude, nous regardons les textes proposés par la liturgie catholique du dimanche qui suit notre émission, donc dimanche prochain. Et ce soir, nous avons choisi de concentrer notre réflexion sur la première lecture proposée par la liturgie. Il s'agit d'un extrait du livre du Deutéronome au chapitre 4. Ça serait bien, Francine, qu'on situe ce livre avant d'en lire le court texte proposé par la liturgie. Hein. Rappelons que c'est le cinquième livre de la Bible, en fait. Hein. Cinquième livre qui termine ce qu'on appelle dans le jargon le Pentateuque, c'est-à-dire un ensemble de cinq livres. Il y a le mot « pentos » en grec, là, le mot « cinq ». Et puis, tout ce livre est présenté comme un long discours de Moïse au peuple, juste avant l'entrée en terre promise. Francine, peut-être que vous aimeriez ajouter quelques éléments de présentation, disons.
Peut-être, avant que vous lisiez notre récit d'aujourd'hui, signaler que les thèmes principaux de ce récit, ce sont aussi les thèmes principaux de ce très beau livre. Le Deutéronome est un très beau livre. Des thèmes qui nous sont très familiers. Ils nous sont familiers parce qu'ils ont nourri, je pense, la spiritualité chrétienne. Le thème de l'Alliance, le thème du Dieu qui libère son peuple d'Égypte, le thème de la terre donnée au peuple par Dieu, le thème de la fidélité à laquelle Dieu s'attend et à laquelle il appelle son peuple. Ne pas servir d'autres dieux, observer la loi qu'il donne pour être heureux. Donc, ces thèmes-là qui sont repris page après page dans le Deutéronome sont aussi présents dans la lecture que vous allez nous faire maintenant.
Au livre du Deutéronome, chapitre 4.
Nishmet kol chay tivarech et shimcha amona Eloheinu ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכריך מלכנו תמיד.
Moïse disait au peuple d'Israël: Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Y a-t-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Est-ce qu'un Dieu a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux. Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur, le Seigneur est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ici-bas, sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les lois et les commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Comme vous disiez d'entrée de jeu, Francine Robert, on est en présence de thèmes vraiment très, très riches. Hein? Mais il y a aussi des thèmes qui suscitent certains malaises. Par exemple, le choix d'un peuple. C'est toute la question du privilège, hein, d'être des privilégiés de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les autres peuples? Comment ça se fait que ce peuple-là a été choisi? Ensuite, un autre malaise, peut-être que, comme par exemple un dieu qui réclame de son peuple l'exclusivisme, voire même l'intolérance face aux autres religions. Beaucoup de questions.
Oui, et des questions très contemporaines qui ont peu à voir avec la mentalité, je dirais, qui prévaut à l'époque biblique. Ça ne veut pas dire que nos questions ne sont pas légitimes, ça veut dire qu'on doit être conscient que ce sont les nôtres. Et ce sont des questions, vous voyez, liées beaucoup à l'évidence d'un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, il ne peut pas avoir des préférés. Mais ça, c'est notre monde. L'évidence aussi de la tolérance religieuse, qui est indispensable dans le monde actuel. Et là, on est agacé par un monde qui est le monde biblique où l'intolérance religieuse est objet même de ce que Dieu demande. Vous voyez, il faut juste être conscient qu'on importe dans un monde étranger nos propres catégories. Et on va essayer de composer avec ça. Je ne vais pas éviter les problèmes, mais y réfléchir à partir de là où on a les pieds, en éclairant en même temps le monde biblique qui suscite ces questions-là. Mais il reste que c'est un beau texte, comme vous avez remarqué, avec des expressions qui nous sont assez familières. Le Seigneur, votre Dieu, le Seigneur, ton Dieu, qui t'a libéré d'Égypte. Bon, tout ça, c'est très parlant et, bon, présenté comme un discours de Moïse. Ça y était au début de votre lecture et c'est vraiment d'un couvert à l'autre. Ce livre-là commence en Moab, juste avant l'entrée en Terre promise, et se termine en disant qu'on est toujours en Moab, juste avant l'entrée en Terre promise. Donc, on a 34 chapitres où on ne bouge pas. Mm-hmm. On écoute le discours de Moïse. Alors, le titre de ce livre que nous appelons, nous, le Deutéronome, vous qui êtes intéressé au grec, Claude...
Ben oui, ce que j'entends, c'est Deutéros, hein, qui veut dire second, puis il y a le mot nomos, ce serait second de loi.
Oui, hein, tout à fait, et ce titre a été donné par la traduction grecque du Premier Testament, donc... Ça dit bien la seconde loi. Il y a toute une section de prescriptions. Hein? Il y a tout un code de loi. Ce sont les chapitres 12 à 26 du livre du Deutéronome. Je rappelle que ça n'est pas seulement le texte très bref que vous nous avez lu, hein, qu'on va commenter, mais l'ensemble du livre à partir de ce court passage.
Oui, c'est ça. Notre passage, en somme, nous ouvre la porte.
Oui. Mm-hmm. Alors, la Septante a appelé donc la traduction grecque.
Oui, rappelons-le. Septante, c'est bon de rappeler qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est quelque chose comme 250 avant Jésus-Christ, on ne comprenait plus la langue hébraïque. Enfin, on la comprenait seulement pour les gens très initiés, puis on parlait, c'était surtout le grec. Alors, on a traduit en grec. La légende veut qu'il y a eu 70 sages ou scribes qui ont fait ce travail, d'où le mot Septante. Voilà.
Pour les Juifs, en fait, qui vivent en monde grec depuis plusieurs générations. Alors, ça s'est appelé la deuxième loi parce que dans l'ordre des livres bibliques, ça vient après la première loi, si on veut, qui est considérée comme étant le code de loi donné au Sinaï, à Moïse, et qu'on trouve en partie dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 à 23. Alors, ici, ce qu'on a, c'est pas le Sinaï qui était tout de suite après la sortie d'Égypte, c'est la fin du voyage, juste avant l'entrée en Terre promise. Et c'est comme si Moïse donnait un long discours d'instruction sur ce que j'appellerais le mode d'emploi de la Terre promise.
Hein. Surtout qu'on sait qu'il va mourir.
Oui, avant
il n'entrera
entrer.
Pas en
c'est
Terre
ça.
Promise.
C'est le
comme,
dernier chapitre.
C'est un testament, c'est ça. D'une certaine façon, une oui. reprise de toutes les lois et règlements, si on peut dire, pour bien vivre dans cette terre que Dieu va donner aux... À ces itinérants, quoi. Ces gens qui ont traversé le désert.
Pour y vivre heureux, en paix. Et c'est bien la finale de notre texte d'aujourd'hui. Hein. Tu garderas les lois, les commandements que je te donne aujourd'hui afin d'avoir bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur te donne. Donc, c'est ça. Il dit, voilà ce que vous devrez faire, comment vous devrez vivre quand vous entrerez. Bon, c'est un peu un artifice littéraire. que le livre, donc l'auteur du livre, a construit. Hein. C'est pas vraiment, tout ça n'est pas vraiment le discours de Moïse.
Non, je pense que là-dessus, il faut être très clair. Oui. C'est inimaginable qu'un homme seul, on l'attribue. Comme c'est la coutume, d'ailleurs, dans le monde antique, on faisait des choses comme ça.
Oui, hein, oui. D'autant plus que Moïse est comme la figure par excellence du législateur. Mm-hmm. Et toutes les lois qui se développeront après lui trouvent leur racine dans les toutes premières lois. Et donc, c'est du Moïse développé. Mm-hmm. Hein? Mais c'est du Moïse 200 ans après ou 300 ans après, mais c'est du Moïse développé. Alors, c'est toujours Moïse. En fait, si je dis que ça ne peut pas être Moïse, c'est aussi parce qu'on a là des lois qui correspondent à une autre époque que la sienne et qui répondent à des besoins tout à fait imprévus à son époque. Ce livre-là est considéré comme le livre dont on parle au deuxième livre des rois. En fait, je voudrais vous raconter non pas l'histoire de Moïse, mais l'histoire d'un roi qui s'appelle Josias. On ne va pas raconter toute son histoire, mais c'est un roi donc de la lignée de David, c'est un roi de Jérusalem. Qui est roi à l'époque de Jérémie, 7e siècle, et qui est une période donc importante de l'histoire d'Israël. Josias, qui est un bon roi, qui est un des trois rois considéré comme étant correct selon l'auteur du livre des rois.
dans la quarantaine de rois, je ne sais pas si on les compté exactement, il semblerait que ça pas été bien brillant.
C'était pas riche, non. Alors, il y a David, évidemment, il y a eu Salomon, Ézéchias, un siècle avant, et au temps d'Isaïe, donc, et Josias, au temps de Jérémie. On est en 622. Josias fait faire des travaux de rénovation dans le temple de Jérusalem, et les rénovateurs découvrent ce qui va s'appeler ensuite le livre de la loi, c'est-à-dire le livre de la Torah, hein, ce que l'on traduit par loi. C'est souvent le mot hébreu « Torah » qui est là. Et on en fait lecture au roi, et le roi découvre que, puis découvre avec une certaine consternation, que ça, c'est la loi du Seigneur, et que les pères, les générations avant lui et sa génération ne vivent pas selon les paroles de ce livre. Et alors, le roi rassemble tout le monde, les prêtres, les prophètes, toute la population de Jérusalem, petits et grands, précise le deuxième livre des rois, nous sommes dans les chapitres 22 et 23, il leur fait la lecture de toutes les paroles, le texte dit, du livre de l'Alliance. Donc, on a deux belles désignations ici, le livre de la Torah, le livre de l'Alliance. Et il lit ça à tout le monde, alors il n'y avait sûrement pas nos 34 chapitres. Hein. Et debout sur l'estrade, il conclut solennellement devant Dieu et avec le peuple une alliance, donc il renouvelle l'alliance qui invite tout le monde à suivre les lois, les commandements qui sont là, à les suivre, dit le texte, de tout son cœur et de tout son être, hein, ce qui est tout à fait dans le style du Deutéronome. Alors, tout le peuple s'engage avec lui et déjà les pères de l'Église et l'ensemble des exégètes considèrent que ce qui a été trouvé à cette époque-là, c'est une première mouture, pourrait-on dire, ou une version courte
du livre du Deutéronome.
De ce que nous avons maintenant dans le livre du Deutéronome, qui ne s'appelait pas évidemment Deutéronome à l'époque, mais disons Livre de l'Alliance. C'est une version courte. Pourquoi on pense cela? Entre autres, je vous passe un certain nombre d'arguments, mais le plus patent, c'est l'insistance constante dans le livre du Deutéronome sur le seul lieu de culte. Il n'y a pas plusieurs lieux de culte. On ne peut pas adorer Yahvé en plusieurs temples différents. Il y a un seul lieu de culte, c'est le temple de Jérusalem. Qu'est-ce que Josias va faire après avoir découvert ce livre? Ben, il va entreprendre une grande réforme qui est racontée toujours au deuxième livre des rois. Et les grandes lignes de sa réforme, c'est entre autres de détruire tous les sanctuaires de Yahvé qui sont en région et en province et de recentraliser le culte au temple de Jérusalem. C'est clairement branché, ça, sur l'insistance du livre du Deutéronome. Il y a d'autres aspects, mais c'est peut-être le plus évident. Alors, d'où venait ce livre de loi? Eh bien, là aussi, on a des éléments de réponse intéressants. On voit que Josias fait consulter une prophétesse, il faut la signaler, il y en a si peu, une prophétesse qui s'appelle Hulda, et c'est curieux les précisions parfois qu'on trouve dans les textes bibliques. Il précise, le livre, qu'elle habite le nouveau quartier de Jérusalem Et on sait par ailleurs que il y a effectivement un nouveau quartier qui a été construit pour les gens du Royaume du Nord qui, un siècle plus tôt, ont dû fuir leur pays. Alors, ce que j'appelle le Royaume du Nord, Galilée et Samarie. Quand je dis Galilée, c'est un vocabulaire plutôt au temps de Jésus, mais bon.
C'est ça. Hein, c'est... Mais ça nous situe, effectivement, c'est ça. C'est le nord, en fait, de l'Israël d'aujourd'hui.
C'est ça. Le nord et le centre, on pourrait dire.
Oui,
hein? Puisque il y a la Samarie aussi. Et la capitale, d'ailleurs, du Royaume du Nord était à Samarie même. Ouais.
Donc, au nord complètement, il y a la Galilée. Au centre, il y a la Samarie. Puis au sud, il y a la Judée. Et c'est la Samarie et la Galilée qui ont été victimes d'une déportation.
Oui, oui, qui ont été vaincus par un voisin très puissant qui est Assur ou la Syrie et non pas la Syrie, comme le pays actuel qui a pour capitale Damas. Et c'est en 721 que le Royaume du Nord a été détruit par les Assyriens. Le Royaume du Nord, là, je sais que c'est pas très familier pour plein de gens. Par contre, si je parle de Élie, si je parle de Amos, de Osée, là, on
voilà
sait
des
un
noms
peu de qui il s'agit. Ouais. Et ces gens-là sont des prophètes du Royaume du Nord. Élie, au 9e siècle, et Amos et Osée, justement, à l'époque où le royaume sera conquis, finalement, et détruit, de sorte qu'ils ont eu de l'influence sur la pensée théologique du Nord, ces hommes-là. Et les réfugiés qui, au lieu d'être déportés par les Assyriens, se sont sauvés, sont venus dans le Sud, puisque c'est aussi des frères qui habitent la Judée, qui s'appelle la région de Juda à l'époque. Et qu'est-ce qu'on voit dans le noyau dur du Deutéronome? Un fort souci de loi qui concerne l'éthique sociale. Vous voyez particulièrement le souci des pauvres. Où est-ce qu'on retrouve ça? Bon, c'est sûr, dans la tradition prophétique, partout. Mais le plus virulent sur ces questions-là, c'est le prophète Amos. Et le prophète Amos est du Royaume du Nord. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans le livre du Deutéronome? Un ton très exhortatif. C'est assez curieux parce que des codes de loi, c'est en langage froid, technique, normalement. On a juste à lire le Lévitique. Mais ici, c'est très exhortatif, émotionnel, l'insistance sur la relation étroite entre Dieu et son peuple. Où est-ce qu'on trouve ça? Chez les prophètes, mais particulièrement chez Osée. Et chez Jérémie, qui est un peu l'héritier spirituel d'Osée. Un siècle plus tard dans le Sud. Donc, vous voyez, on pense que la première mouture, je dirais, du livre du Deutéronome, tel que nous l'avons, vient du Nord et a été oubliée pendant un siècle. Les réfugiés, c'est 720, 721, et a été découverte plus tard, 622, Josias. Donc, les lois qui sont là datent déjà d'un siècle et pour un autre territoire. Elles ont sûrement été retravaillées et réadaptées au temps de Josias, 7e siècle. C'était quelque chose du 8e siècle avant Jésus. Là, on est au 7e siècle. On sait que le livre a continué à se développer. Il va être complété après l'exil. Or, on revient d'exil au 6e siècle. On est rendu en 538. L'exil, ce qu'on désigne par l'exil, c'est quand le royaume du Sud, à son tour, va être vaincu par une puissance.
Ah ben oui, Nabucodonosor, la grande déportation vers Babylone.
Oui, ça veut dire que la pensée, on appelle ça la pensée deutéronomique, ou encore mieux l'école deutéronomique, va constamment évoluer sur plusieurs siècles. L'exil va aussi amener une manière de réfléchir à l'alliance, alors des thèmes du Deutéronome, l'alliance, la loi ou la Torah, quel rôle ça doit jouer dans la foi du peuple, quel est ce peuple, quelle est son identité profonde. On doit y réfléchir lorsqu'on vit une catastrophe nationale comme l'exil. Le monothéisme aussi va se développer. Et donc, toute cette réflexion d'après l'exil, qui garde la couleur, je dirais, et la saveur du début du Deutéronome, la tonalité, va amener à relire, réécrire, allonger, modifier donc le Deutéronome. Alors, vous voyez, c'est comme un long processus de formation dont témoigne ce livre sur plusieurs siècles, à partir du 8e siècle dans le Nord, au temps d'Amos-Osée, jusqu'à peut-être les années 500 avant Jésus-Christ. Tout ce temps-là, ce sont les paroles de Moïse.
On peut dire, c'est que toutes ces lois et ces paroles sont présentées comme un discours que Moïse aurait prononcé.
Oui, paroles de Moïse que l'on déploie à mesure que la réflexion progresse et que les besoins aussi de lois, le besoin de se comprendre soi-même comme peuple, comme religion, tout ça, ça sera toujours mis dans la bouche de Moïse, qui est le guide par excellence.
Veyene tsorachem kem